14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors vous avez peut-être envie de revenir sur l'un des sujets que nous avons abordé cette semaine, peut-être d'ailleurs sur les violences conjugales, puisqu'on parle beaucoup de ce sujet dans les médias. Et d'ailleurs aujourd'hui, nous serons à l'opposé de la violence, puisque nous allons évoquer le lâcher-prise, en compagnie d'un psychiatre, ce qui est déjà assez étonnant. Et pourtant, eh oui, François Bourgognon travaille beaucoup sur ces notions de lâcher-prise. Alors, quand on considère que l'opposé du lâcher-prise, eh bien, c'est le contrôle, on comprend mieux pourquoi c'est si compliqué pour la plupart d'entre nous. Parce que, on en a parlé mardi, notre émotion dominante, c'est la peur. Et évidemment, si on a peur, on aura plutôt tendance à vouloir tout contrôler. Alors bref, on a tout faux parce qu'il faut plutôt aller vers plus de liberté. Et la liberté dans notre vie, c'est le lâcher-prise. François Bourgognon va nous expliquer tout ça dans un instant. Alors, qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Est-ce que vous savez lâcher prise? N'hésitez pas à venir nous le dire. Et puis, bien sûr, vous pouvez réagir sur un autre sujet. Notre numéro 0826-300-300. Bonjour, François Bourgognon.
Bonjour.
Alors, le lâcher prise, quelle définition vous en donneriez déjà? Pas facile, hein?
Oui. Moi, je pense que le plus simple, c'est de dire lâcher prise. Alors, c'est ce que nous, on rapproche de la dimension d'acceptation en psychothérapie. Ça serait de dire faire avec ce qui ne peut être évité ou changé. Voilà, faire avec ce qui ne peut être évité ou changé. Et il y a un scoop là-dedans, en fait, c'est qu'il y a des choses dans notre vie sur lesquelles on peut agir et d'autres pas. Et en fait, c'est aussi simple que ça, c'est arriver à faire avec ce sur quoi on ne peut pas agir.
Oui, alors ça c'est déjà intéressant parce qu'on a souvent tendance à penser que le lâcher-prise c'est une sorte de soumission, une sorte de, comment dirais-je, de passivité,
hein ? Vous êtes d'accord ? Tout à fait.
D'accord ?
Tout à fait, en fait alors, nous on utilise le terme acceptation ou le terme d'accueil et le mot accepter ou le mot acceptation en fait résonne très souvent de façon péjorative pour la plupart d'entre nous parce que très souvent on entend se résigner, baisser les bras ou être d'accord avec. Alors bien évidemment, quand il s'agit de faire face aux aléas de la vie, à des souffrances, à des choses difficiles, l'idée, c'est pas du tout ni de se résigner, ni d'être d'accord avec ce qui nous arrive, mais c'est simplement d'essayer de faire la part des choses entre ce sur quoi on peut agir et ce avec quoi il va falloir faire. Parce que si on entre en conflit avec quelque chose qui s'impose à nous, eh bien, on risque de se le prendre deux fois plus fort, en fait.
Oui, prenons l'exemple d'une douleur, par exemple. Hein, on a très mal, donc physiquement. C'est vrai que se résigner, ça voudrait dire on fait rien et on laisse la douleur nous envahir. Le lâcher prise, ça veut dire accepter cette douleur, aller voir le médecin, se soigner, mais pas commencer à en vouloir au monde entier de cette injustice, etc. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, on peut dire les choses comme ça. Alors après, bon, si on rentre dans des considérations on va dire peut-être un peu plus techniques, effectivement, quand on est confronté à une douleur chronique, et comment on l'aborde avec les stratégies dites d'acceptation et qui sont dans le prolongement de ce qu'on fait en méditation, en fait, quand on souffre de douleur chronique, c'est-à-dire une douleur qui persiste malgré les traitements, on peut être mu par deux types de réflexes, des réflexes d'évitement ou de lutte. Alors l'évitement, bah, si on essaye de se distraire, de ne pas y penser, de partir ailleurs.
Prendre de l'alcool.
Voilà, ou alors, voilà. Et donc toutes ces stratégies ne sont que très temporaires en fait, parce que ça apporte un soulagement à court terme, mais à moyen et à long terme, on se reprend quand même la douleur. Et la lutte, ça entraîne une focalisation du mental sur la douleur.
Et ça l'aggrave,
exactement. Une certaine forme de crispation autour de la douleur. Et donc, en fait, elle envahit tout le champ du mental. On ne voit plus que ça et on ne sait plus quoi faire avec.
Et on ne parle que de ça.
Et on ne parle que de ça. Et donc, voilà, elle prend toute la place.
Et donc, l'acceptation, c'est de...
Voilà, alors, c'est d'approcher la douleur, d'être d'accord avec le fait... Enfin, d'être d'accord, en tout cas, d'essayer de travailler à la laisser être là et d'essayer petit à petit aussi à faire de la place un peu à tout le reste. Une fois qu'on lui a fait de la place, l'idée, c'est de faire une place à la douleur pour qu'elle ne prenne pas toute la place. En fait, c'est ça. Donc, ça va être faire avec cette part qui s'impose à moi, sur laquelle je n'ai pas de prise, et ne pas entrer dans un conflit avec elle, parce que, en fait, être dans la lutte, ça équivaut à se tirer une balle dans le pied.
Alors, est-ce que l'enfant, naturellement, est dans le lâcher-prise enfin, je parle évidemment du petit enfant, ou pas ?
C'est-à-dire ?
Ben, je ne sais pas, 3 ans, est-ce qu'un enfant de 3 ans est dans le lâcher-prise ou pas ?
C'est difficile à dire. Moi, j'étais tout petit à la maison. Je les vois parfois être mus par des réflexes de lutte ou d'évitement. Enfin, une chose qui est certaine, c'est qu'ils ont pas un rapport à l'expérience. Enfin, ils ont un rapport à l'expérience qui est un peu différent du nôtre, dans la mesure où les tout petits ont pas accès au langage, en tout cas de la même façon que nous. Ils élaborent pas forcément de façon très intellectuelle tout ce qu'ils vivent. Quand ils vivent les choses, ils les vivent directement. Ils font l'expérience des choses directement et ils ne font pas de monologue interne sur ce qu'ils vivent. Donc, ils sont moins emportés dans des ruminations, dans des conflits intellectuels, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant parce que le fait d'être dans l'expérience directe est une façon d'apprendre. Parce que quand on accompagne nos tout-petits d'instinct, on est dans la découverte sensorielle du monde. On leur dit « écoute comme c'est joli, touche comme c'est doux, sent comme ça sent bon ». On est vraiment dans la sensorialité. Et l'idée, c'est que avant d'être pensé, les choses sont d'abord expérimentées par nos sens. On fait d'abord l'expérience du monde avant de le mettre en mots. Et ça, c'est une façon qui est très importante d'apprendre et dont on a tendance à se détourner en grandissant parce qu'on a sacralisé la pensée. Et qu'après, on a tendance à penser ou à se fier qu'à la pensée, alors que l'expérience est une façon très importante d'apprendre. Bon, l'exemple que je prends souvent, c'est apprendre à nager. Je peux vous expliquer pendant des jours et des jours comment on nage, ça ne vaut pas un moment d'aller dans l'eau. Parce qu'on va capter par l'expérience des choses qu'on ne peut pas transmettre par le langage. Les enfants ont cette capacité à être en prise directe.
On dit toujours que c'est très facile d'apprendre à un jeune enfant à nager. Oui. Un adulte, c'est très compliqué parce qu'il il a déjà peur de l'eau, il a peur de se noyer, il a peur. Alors qu'un enfant, naturellement, va nager assez vite.
Voilà,
assez
on va dire que le mental prend moins de place, effectivement. Ça, donc il y a une certaine forme de rapport plus direct avec l'expérience. Et effectivement, de ce point de vue-là, vous avez raison, on peut peut-être parler prédisposition au lâcher prise, qui est plus importante chez les petits.
Non, mais c'est important d'essayer de bien comprendre, parce que c'est pas facile d'expliquer le lâcher prise, mais c'est finalement se laisser aller à ressentir les choses sans y mettre tout de suite une croyance, une pensée, un jugement.
C'est intimement lié, oui. La présence à ce qui est là et la capacité à faire avec ce sur quoi je ne peux pas agir, c'est intimement lié. Pourquoi ? Parce que face à l'adversité, on est en prise avec notre réactivité automatique et celle-là s'enclenche de façon fulgurante et elle nous emporte très très rapidement dans des réflexes de lutte ou d'évitement. Donc le fait
Alors
d'être présent...
Ouais. C'est important ce que vous venez de dire parce que je voulais arriver à mon sujet, vous imaginez bien lequel, la sexualité. Et voyez, ce que vous dites c'est intéressant parce que ça veut dire que si on est dans la lâcher prise dans sa sexualité, tout va aller bien. Sinon, on est dans l'évitement, la fuite, et qu'est-ce que vous avez dit d'autre ?
Ou la lutte. La fuite ou la lutte. Ouais.
Donc, si on a dans la sexualité besoin de contrôler, on n'est forcément pas dans une sexualité qui va être épanouissante et harmonieuse.
Oui, et puis on est très souvent dans quelque chose de totalement contre-productif, en fait. Totalement contre-productif. C'est-à-dire que plus, par exemple, alors pour les hommes, c'est plus je cherche à contrôler mes érections ou à avoir une érection volontairement, moins j'y arrive. Ça fait partie de ces phénomènes qu'on qualifie de paradoxal. Alors, il y a d'autres phénomènes comme ça qui ont été étudiés en psychologie.
Parce que c'est un réflexe, l'érection, tout simplement, au départ.
Oui, ce n'est pas quelque chose qui se commande avec un effort de volonté, en fait. Il ne s'agit pas seulement de le vouloir. Enfin, il s'agit aussi à un moment de se remettre
à... Ce n'est pas « je bande dont je suis
». Oui, non. il y en a qui s'accrochent à cette pensée-là. Mais c'est une pensée qui ne nous emmène pas du bon côté, quoi. Et voilà, donc il y a plein de phénomènes comme ça. C'est plus. Alors, Émile Coué, moi je suis de Nancy, Émile Coué décrivait ça très bien. Il avait débusqué ce truc-là il y a déjà bien longtemps.
Mais par exemple, c'est vrai qu'il a été mal compris.
Oui, il a été mal compris.
Quand on lit un peu la méthode Coué est finalement assez mal vulgarisée.
Oui, et puis elle est souvent entendue comme une technique de bourrage de crâne, alors que c'est beaucoup plus fin que ça. Moi, je pense que c'est un véritable génie. Et par exemple, il nous disait, plus vous voulez contrôler votre rire, plus votre rire éclate. Vous voyez ? Et ça, moi, je trouve que c'est exactement pour ça, moi, que je regrette l'école, parce que j'avais des fous rires quand j'étais petit, je m'en rappelle, parce qu'on n'avait pas le droit de rire. Donc, on cherchait à contrôler notre rire, et c'est comme ça que notre rire nous envahissait.
Ça m'est arrivé un jour à un enterrement, j'ai fini par éclater de rire, et c'était horrible, j'avais absolument pas envie de rire. C'est juste
c'est
que...
Voilà. Et typiquement, les fous rires, ça arrive quand il faut pas. Et pourquoi ?
Oui, Bénédicte, me regardez pas avec ses gros yeux, ça m'est arrivé, et puis voilà, et je n'en suis pas morte, C'était pas mon enterrement.
Eh oui. Oui, mais les fous rires, ça arrive dans des... Le fou rire se nourrit des efforts de lutte. C'est l'exemple parfait de l'effort de lutte contre-productif. Plus je veux ne pas rire, plus je ris. Plus je cherche à dormir volontairement, moins j'y arrive. Plus je cherche à marcher naturellement devant tout le monde, plus je marche n'importe comment. Et en fait, voilà. Donc ça, c'est vraiment les efforts de lutte qui sont totalement contre-productifs. Donc si vous voulez, lâcher prise, moi j'aime bien dire ça aussi aux patients quand on en discute, c'est faire le choix de faire autre chose que de se tirer une balle dans le pied à continuer dans des efforts de lutte qui se retournent contre nous. C'est ça, lâcher prise.
Voilà, on vous a déjà un petit peu éclairé. Est-ce que vous y arrivez assez facilement? Est-ce qu'il y a des moments où vous n'y arrivez pas? N'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite.
14h, 16h. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de François Bourgognon, psychiatre et auteur de ce livre « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé », ça serait dommage quand même. Hein. C'est aux éditions First et on va essayer de vous aider à lâcher prise avec nous. Déjà d'écouter pendant 2 heures notre émission, ça permet de lâcher prise un petit peu quand même, non? N'est-ce pas Karine? Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, et je voudrais dire d'ailleurs à sujet de ce livre que je l'ai acheté après vous avez entendu en parler il y a quelques mois dans votre émission. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, sur lequel j'ai pris plein de notes et qui m'a beaucoup aidé aussi ces derniers
merci
mois.
Beaucoup.
Ça me fait plaisir, Karine, parce que c'est grâce à ce livre aussi que j'ai découvert François Bourgognon et qui vient maintenant de temps en temps avec nous vous aider à tout simplement à vivre pleinement au lieu de vous encombrer de tas de réflexes qui sont pas bons quoi. Alors qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé justement dans ce livre Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé. Dites-nous.
Alors j'ai aimé ce qui m'a permis de faire notamment il y a plusieurs petits exercices, je me souviens, c'était il y a quelques mois, mais ça, j'avais pris des notes, donc je m'en souviens quand même assez bien. S'imaginer, par exemple, ce que l'on voudrait voir apparaître sur notre tombe, se projeter. En fait, c'est surtout le passage concernant la mort, le fait qu'on n'était pas éternel, prendre vraiment conscience de ce que l'on voulait faire dans le temps qui nous restait. Je m'excuse, c'est peut-être pas très clair, mais si. C'est vrai que maintenant, ça fait quelques mois que je l'ai lu, mais il y avait des petits exercices assez pratiques qui permettaient de se poser et de dire, alors voilà, s'il me restait tant de temps, voilà, quelles sont mes priorités, quelles sont les valeurs importantes.
Ça vous a aidé à aller à l'essentiel.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Oui, je vous remercie pour ce témoignage parce que c'est vrai que c'est pas évident en plus d'amener la mort comme ça au cœur d'un ouvrage. C'est vrai que moi je pense que le fait de se rappeler au fait qu'on n'est pas éternel, c'est un moteur absolument formidable de vie parce que dès qu'on se rappelle à notre finitude, en fait, très rapidement, tout ce qui vient, c'est ce qui est essentiel pour nous. Et ce qui est essentiel pour nous, on peut passer quand même assez facilement à côté en étant juste la tête dans le guidon et en s'absentant du fait que notre vie va arriver un jour à son terme et donc que notre temps est compté. Donc effectivement, c'est pour moi, c'est un moteur formidable pour amener à une réflexion sur ce qu'on appelle les valeurs aussi en thérapie. Les valeurs, c'est ce que désire notre cœur et le sens qu'on souhaite donner à notre vie. Voilà, donc merci beaucoup.
C'est vrai que c'est vraiment cette partie, oui, sur ce... Ça y est, justement, je l'ai sous les yeux, c'était se rappeler que nous ne sommes pas éternels et c'est quelque chose que... Ben, je pense que parfois, c'est la mort d'un proche aussi qui nous rappelle à ça. Moi, je sais que c'est mon papa qui est décédé il y a maintenant 4 ans et cette mort a quand même aussi changé pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé cette utilisation de l'évocation de la mort dans votre livre. Pour tout vous dire, toutes les petites pages, que faut-il retenir, qui sont des petites pages en fin de chapitre, ce qu'il faut retenir. J'ai fait un certain nombre de photocopies. J'ai carrément des petits extraits qui sont sur mon tableau d'affichage dans la cuisine. Avec en gros ce qu'il faut retenir et puis notamment des petits extraits sur le lâcher prise. Voilà, c'est choisir de faire autre chose que de continuer à perdre de l'énergie dans des efforts de lutte qui se retournent contre nous. Voilà, ce genre de choses, donc j'en ai un petit peu partout sur le tableau de ma cuisine. Donc voilà, je suis très très heureuse du coup de participer à cette émission aujourd'hui avec vous.
Et d'échanger avec François Bourgognon.
Tout à fait.
Alors, vous vouliez aussi évoquer vos échanges avec des hommes qui a priori, veulent toujours se montrer sous un jour un peu différent de ce qu'ils sont réellement.
En fait, ça fait un an que je me retrouve célibataire et je pense que je suis sans doute encore finalement naïve parce que j'ai été deux fois en couple, mais je me rends compte que jusqu'à présent, je pense que j'avais eu assez de chance finalement dans mes rencontres. Et là, ça fait un certain nombre de fois que je tombe sur des hommes qui... Et c'est là, je pense qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la drague, la séduction ou le mensonge. C'est-à-dire que, alors que je ne demande pas quoi, que je ne demande aucun engagement, aucune promesse, aucun. Et très tôt, je me retrouve, plusieurs fois, je suis tombée sur des hommes qui, très tôt, employaient des mots doux, évoquaient des projets, voire même à plusieurs mois, alors que ça faisait deux fois qu'on se voyait. Et tout ça, en effet, pour que je réalise trois semaines après qu'il s'agissait finalement d'un simple plan cul, comme on le dit. Et je trouve ça tellement dommage. Enfin, j'ai même un de ces hommes avec lesquels j'étais restée ensuite plutôt en bon terme, qui disait lui carrément régulièrement « je t'aime » quand il couchait la première fois, parce que disait-il, c'est ce que les femmes veulent entendre. Et je trouve ça tellement dommage de mentir sur des choses comme ça, enfin de ne pas prendre... Surtout quand de notre côté, je suis pas la seule, je pense à... Après, je pense que c'est... je parle d'hommes, mais ça peut se trouver chez... sans doute peut-être d'une autre façon aussi chez des femmes, mais on ne demande rien en début de relation. Enfin, les choses peuvent aller tout à fait lentement. Et pourquoi vouloir ensuite aller très vite? Surtout que, et là on revient sur le, justement peut-être en partie sur le lâcher prise, depuis sur ce que vous aviez, en début de semaine il y avait une émission aussi sur les blessures d'enfance et la peur d'être blessé en amour. Mais le fait est que du coup, même si en m'engageant dans une relation au départ, je n'attends rien de spécial et quelque chose de léger pourrait me convenir, le fait que l'autre soit tout de suite très, très présent, très... très enthousiaste, promettre plein de choses, prévoir plein de choses. Du coup, je me laisse un petit peu quelque part contaminée et je commence à m'attacher et hop, voilà, c'est à ce moment-là que je retombe un petit peu sur terre. Et bon, je me suis quand même protégée, mais je trouve ça un petit peu dommage. Et je pense que c'est de la naïveté de ma part, en effet, il faut que je me remette peut-être un peu au courant.
Il y a peut-être de la naïveté de votre part, mais je pense quand même qu'on est dans un fonctionnement aujourd'hui à cause des sites de rencontres. Alors moi, je ne suis pas contre les sites de rencontres, hein, bien sûr. Ça peut aider des personnes à se rencontrer. Il y a des couples qui se forment. Mais à cause des sites de rencontres, c'est vrai qu'on codifie un petit peu la manière dont il faut se présenter, dont il faut parler aux hommes, aux femmes. Et ça enlève finalement, j'allais dire, du cas par cas.
Oui, je réfléchissais en parallèle à ce que je pouvais vous répondre par rapport à cette problématique. Moi, ce que je crois, c'est... Pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, je pense que dans ce qu'il faut pouvoir accepter, ou ce par rapport à quoi il faut être capable de lâcher prise, c'est que, d'une façon générale, les autres sont comme ils sont et pas comme on voudrait qu'ils soient. Et que, effectivement, c'est probablement fréquent que, au cours d'une phase de séduction, alors je ne sais pas si les réseaux sociaux appuient là-dessus, sûrement un peu, hein, mais très souvent, il y a une certaine forme d'enthousiasme ou de promesses peut-être un peu excessives qui sont faites. Et ça peut effectivement déterminer, si on n'y prend pas garde, des déceptions un peu abruptes. Moi, j'aurais tendance juste à peut-être à vous inviter, en tout cas, à essayer de garder l'esprit clair, en fait, en début de relation, justement, par rapport à ça. Vous savez que ça arrive, vous savez que en phase de séduction, les personnes peuvent peut-être amener des projets, des promesses, des je t'aime qui ne sont pas toujours très alignés ou très, très habités. Et peut-être pas non plus, on va dire, balayer du revers de la main la relation parce que ça se passe comme ça et qu'on n'y croit plus du coup, mais juste faire avec cette composante-là et garder une certaine forme de juste distance par rapport à ce qui est amené pour essayer de pouvoir s'investir dans la relation du mieux possible.
Sans en souffrir, mais en même temps, moi je vais vous dire, Karine, ça parle de vous. Ça veut dire que dès qu'on vous parle d'amour, dès qu'on vous dit je t'aime, vous fondez comme une madeleine.
Oui, mais tout à fait, j'en suis contente. Il faut donc, que je travaille dessus, bien sûr.
Non, ouais. Enfin, il faut travailler dessus, oui, mais il faut peut-être réaliser que vous êtes peut-être en manque affectif. Il y a peut-être chez vous un besoin de vous sentir aimé. Et quand l'homme vous apporte ça sur un plateau, vous êtes tout de suite prête à le prendre sans.
Ah, tout à fait, je suis même pas regardante dans ces cas-là, en effet.
Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que vous avez besoin, envie de vous sentir vraiment aimé. Alors, peut-être le conseil que je vous donnerais, qui n'est pas forcément toujours le conseil que je donne, mais dans votre cas, peut-être ne couchez pas trop vite avec un homme. Attendez de voir s'il tient un peu à vous, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à construire une belle relation, c'est en se faisant un peu désirer.
Non mais je pense en effet, là j'ai carrément décidé de tout mettre sur pause, parce que du coup j'ai eu trois déceptions là, un peu coup sur coup dans l'année, rien de... Des déceptions surtout pour mon ego, hein, je pense, parce qu'en réalité, voilà, c'est pas... J'avais pas non plus eu le temps de m'attacher. C'était vraiment très, très bref. Mais au contraire, oui, là, je pense que je vais mettre carrément tout ça un petit peu sur pause. Parce que, ou alors, en tout cas, les prochaines fois, prendre les choses avec beaucoup plus, en mettant beaucoup plus de temps. Hein. Mais
je voulais juste dire, laissez-vous désirer un petit peu plus. Et puis, je crois pas que ce soit votre ego. Je crois que c'est le cœur. Hein. C'est le cœur qui souffre. Il faut oser reconnaître que c'est assez douloureux de s'entendre dire « je t'aime » pour se faire larguer une semaine après, c'est vrai. Merci beaucoup Karine en tout cas. Allez, on se retrouve dans un instant avec notre Sexy News Trinidad, bien sûr.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Et c'est Trinidad, bien sûr, qu'on retrouve. Bonjour Trinidad.
Bonjour Brigitte. Alors cette semaine, j'ai retenu deux infos qui m'ont fait poser quelques questions. D'un côté, le témoignage de cette jeune femme qui raconte que lorsqu'elle était célibataire, un jour, elle a couché avec trois hommes différents dans la même journée. C'était un peu trois hommes et un couffin, en deux mots.
D'accord, oui. Et sur un couffin, non, trois hommes sur un couffin.
Et de l'autre, un festival de Cannes macabre avec ce vieux de 94 ans qui a buté sa femme en la cognant avec la sienne. Comment dans une même société peut-on passer d'une femme qui meurt de plaisir avec des hommes à une femme qui meurt sous leur coup ? D'avoir le choix des hommes avec qui on reste, à rester avec l'homme parce qu'on n'a pas le choix. De « je t'aime, oh oui, je t'aime », à « donne-moi ta main et prends la mienne dans ta gueule ». Personne ne semble avoir la réponse, mais en matière de violence, on connaît la chanson et pourtant c'est toujours le même refrain « stoppons cette violence ». Résultat en France, 101 féminicides en 9 mois et toujours la première cause de mortalité des femmes dans le monde. On ne peut pas dire que ce soit un succès. En même temps, c'est sûr, ça fait de la place pour sauver la planète.
Alors, je vais me permettre quand même une petite leçon d'orthographe. Féminicide, c'est un terme pas vraiment adapté parce qu'on un féminicide, c'est tuer la féminité. On devrait dire fémicide.
Fémicide.
Vous êtes d'accord ?
Oui, de toute façon, le Word ne le reconnaît pas.
Je suis d'accord.
Non, mais c'est vrai.
Par défaut, je suis d'accord.
Non, mais c'est vrai. Je ne vais pas changer le mot. Hein, je ne me fais aucune illusion. Mais c'est vrai, on a inventé ce mot récemment. On l'entend à toutes les sauces. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas... Mais évidemment que je suis la première depuis très longtemps à penser qu'il serait temps de faire de l'éducation dès le plus jeune âge pour qu'on avance un petit peu sur ces questions de violence conjugale. Mais enfin bon, bref, excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, je vous en prie. Mais c'est vrai que Word ne reconnaît pas le mot, c'est rigolo. il le souligne en rouge.
Oui, alors bien sûr, il va rentrer dans le dictionnaire sans doute l'année prochaine, hein, de toute façon.
Donc résultat, depuis le 3 septembre, on débat sur cette violence qui s'abat et je ne parle pas du groupe. Cogner, égratigner, se faire castagner, faisant du couple un combat qui fait regretter le célibat. Pourtant, dans les deux cas, il y a des ébats. Chez la première, on fait glisser les bas. Chez les autres, il y a des hauts et des bas. Et c'est quand les bas l'emportent que le bas blesse et qu'il y a des coups bas.
Bravo.
Comment expliquer à
arriver quand même à nous faire rire sur un sujet aussi difficile et délicat en ce moment, bravo.
Comment expliquer à ces hommes qu'on a le cœur qui bat, qu'on bat la mesure, on bat la cadence, on bat le rappel, on bat les œufs en neige, on bat le fer tant qu'il est chaud, mais on ne bat pas sa femme. Malheureusement, elles sont peu nombreuses à pouvoir dire « bat les pattes ». Pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est dans l'histoire de la jeune femme qui couche avec trois hommes, ses copines la traitent plus ou moins de pute. Du coup, elle culpabilise, elle doute, elle se juge. Finalement, elle est tombée amoureuse et très heureuse et fidèle dans son couple. Imaginons qu'elle soit tombée sur un mec violent, qu'aurait dit ses mêmes copines ? Et après tous ces doutes, aurait-elle eu assez confiance en elle pour se barrer ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une copine libérée qui chante « Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mes hommes » ou une copine craintive qui supplie « Viens à la maison, il y a mon mec qui me plante avec une arme blanche ». Est-ce qu'il vaut mieux tirer des coups avec trois hommes ou s'en prendre avec un seul ? Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Bah, moi, c'est tout réfléchi. Hein. Je pense que tout le monde connaît ma réponse.
Quand on écoute les témoignages des femmes battues, on entend des similitudes. Au début, ça commence comme un rêve d'enfant, un joli conte de fées. Mais très vite, c'est ni fait ni affaire. Un jour, il te dit « je vais te mettre super trempe ». Toi, t'es contente, tu crois que c'est le groupe ? Pas du tout. C'est en deux mots, vlan. Et là, ton Roméo qui chantait sous le balcon peut te jeter du balcon. Et malgré ça, certaines font quand même des enfants avec ces hommes violents, comme cette femme battue qui n'en parlait à personne, mais qui avait appelé, c'est une histoire vraie, elle avait appelé sa fille Emma et son fils Tom. Elle avait donc accouché d'Emma Tom.
Oui, c'est fou l'inconscient.
Ces Emma Tom qui est en prison. Oui. Les femmes, nous naissons souvent avec un bug, c'est le programme sauveuse. C'est peut-être ça qu'il faut changer pour éviter que l'amour devienne noir désir. Épouse est un état civil, punching ball est un objet, et psy est un métier. Payé combien maintenant ?
Pas cher.
Mais ça vaut le coup.
Et la femme battue, c'est du 3 en 1. Alors si vous tombez sur un malade qui vous cogne et que vous vous sentez l'âme d'une sauveuse, divorcez, ouvrez un cabinet, au moins ça rapporte. Regardez comme il a l'air épanoui une autre fois.
Je suis à l'hôpital.
Et à lui de faire le travail pour comprendre qu'aimer ou d'autrui, il faut choisir. Et quand il envoie une femme à l'hosto, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et ceux qui ne veulent pas se soigner pour calmer leur côté animal, je leur propose un petit séjour chez Brassens. Pour, faut que je me rappelle quelle chanson j'ai choisie, ça y est. Pour ceux qui aiment taper les filles, moi j'ai trouvé la solution. Je les envoie chez le gorille, leur faire une tête comme un jambon. Et méfiez-vous, c'est un pervers sexuellement très d'un défi. Il peut s'attaquer au derrière si vous entend pousser des cris. Car au gorille...
Oh bah voyez, alors franchement Trinidad, d'abord vous savez que j'adore vous entendre chanter Brassens. Puis alors ça, je trouve que ce serait une formidable campagne de prévention. Ça choquerait les esprits et tout le monde en parlerait, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, François Bourguignon ?
Oui, je suis d'accord avec vous.
Une petite nuit avec un gorille, moi je pense que ça peut remettre les idées en place, non ?
Oui. Refaites-la-moi, juste pour moi.
Tout.
Allez. Non, juste
le gare au gorille.
Juste le gorille.
Gare au gorille.
Non, tout. Oui, moi
d'accord.
Je crois.
Allez. Pour ceux qui aiment taper les filles, moi j'ai trouvé la solution. Je les envoie chez le gorille, leur faire une tête comme un jambon. Et méfiez-vous, c'est un pervers sexuellement très d'un défi. Il peut s'attaquer au derrière s'il vous entend pousser des cris. Tout ça avec moi. Gare au gorille.
Et voilà, bah, bravo. Merci. Bravo Trinidad. Alors Trinidad, bah, ça y est, hein, vous avez repris, et pendant ce temps Simone Veil à la Comédie Bastille, le samedi à 15h, le dimanche à 15h, le lundi et le mardi à 19h. Et à partir de 16 septembre, pour que tu m'aimes encore, ce sera les lundis.
Pour que tu t'aimes encore Brigitte.
On va dire à chaque fois. Hein,
oui, mais tout le monde va le faire, c'est normal.
Bon, pour que tu t'aimes encore, les lundis à la Comédie Bastille sera à partir du 16 septembre, c'est bientôt, et j'ai très envie de voir ce spectacle. Vous avez une santé de gorille, Trinidad.
J'ai lâché prise, c'est ça le secret.
Ah ben c'est vrai qu'en tant que comédienne, François Bourguignon, on est obligé d'être dans le lâcher-prise quand on monte sur scène, j'imagine.
Ah ben, les comédiens, alors je ne suis pas un ultra-spécialiste, mais je sais qu'ils sont parfois pris justement dans des schémas de contrôle contre-productif, en fait, hein, justement par rapport à des extinctions de voix ou une façon de gérer le trac. Et donc, bien évidemment, il faut aussi parfois savoir arrêter de lutter quand la lutte se retourne contre nous. Et les comédiens échappent bien évidemment pas à la règle.
Moi, le meilleur lâcher-prise que j'ai trouvé, c'est de dire, avant d'entrer en scène, service. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est le spectateur où il accueille ou il accueille pas, mais ça ne m'appartient plus.
Mais c'est très bien. C'est-à-dire que parfois, on est obligé de s'en remettre aussi à des citations ou à des textes. Ou à des choses qui nous permettent de retrouver justement cette attitude mentale qui n'est pas l'attitude mentale la plus spontanée. Une fois de plus, ce qui est spontané, c'est de lutter. Hein, ça, on connaît bien, ou de chercher à contrôler. Donc, moi, j'ai des phrases comme ça qui sont un peu comme des talismans. Alors, j'aime beaucoup Shakespeare qui disait « ce qu'on ne peut éviter, il faut l'embrasser ». Ou on disait Jung aussi qui a dit « ce à quoi tu résistes persiste et ce que tu embrasses s'efface ». Voilà, je trouve que c'est vraiment des petites phrases qui parfois peuvent vraiment nous aider à à trouver le bon positionnement vis-à-vis de ce qu'on vit.
Alors, pour revenir sur ce que vous dites, Trinidad, c'est-à-dire que quand vous rentrez sur scène, vous connaissez votre texte, vous savez jouer votre rôle, etc. Si le public réagit pas très bien, tant pis pour lui, quoi.
C'est pas tant pis, c'est que ça lui appartient.
Ça lui appartient.
Oui. Enfin, je veux dire,
il a le droit de pas aimer.
Vous n'allez pas surjouer pour acquérir le public, quoi.
Par contre, quand on est en situation de trac et qu'on n'arrive justement pas à lâcher ce trac, on peut être dans cette. Donc, c'est vraiment tout le travail, c'est de dire. Voilà, moi j'ai fait ma part. Maintenant, je.
Et c'est pareil quand on rencontre quelqu'un sexuellement, on fait sa part et puis bon, ça réagit bien de manière complémentaire avec l'autre ou pas, mais de toute façon, faut pas à ce moment-là surjouer non plus, ça sert à rien.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est même quelque chose qu'on peut transmettre. Par exemple, au cours de guidance, de méditation, souvent on utilise. Enfin, moi, j'utilise beaucoup du mieux que je peux. Du mieux que je peux, je ressens et j'observe. Du mieux que je peux, je stabilise mon attention. L'idée étant, en fait, du mieux que je peux, c'est un peu une ritournelle, en fait, mais qui instille l'idée que on peut pas tout contrôler, qu'on peut pas faire mieux que du mieux qu'on peut, et que donc ça contient à la fois une certaine forme de lâcher prise et de bienveillance pour soi-même. C'est-à-dire, je vais pas me blâmer de ne pas pouvoir faire l'impossible. Et si je fais du mieux que je peux, alors je refais du mieux que je peux. Et c'est très bien.
Voilà, une belle leçon de vie. Nous continuons avec notre quotient sexuel du jour et c'est Pauline qui va essayer de gagner son quotient sexuel. Bonjour, c'est Pauline.
Bonjour. Voilà.
Alors on va commencer par une question à laquelle je pense vous devriez répondre puisque vous êtes une femme, mais enfin on ne sait jamais. Hein. Qu'est-ce qui recouvre...
On ne pas donc nos habitudes de répondre aux questions d'être femme. Donc j'ai essayé de juste me calmer un peu plus peut-être.
Alors déjà, lâchez prise, soyez à l'aise. Hein, vous allez faire de votre mieux et ce sera très bien.
Allez. C'est parti.
Qu'est-ce qui recouvre le clitoris ?
Le clitoris, c'est la peau, mais c'est en fait dans la région de vagin. Donc, c'est que. C'est le mucus.
Pardon ?
C'est du mucus.
Pas vraiment, non. Qu'est-ce qui recouvre ? Vous avez dit la peau, hein, il me semble. Donc, déjà, on est sur la bonne voie, là. Donc c'est en effet un peu de peau. Et comment ça s'appelle plus précisément?
C'est la zone érogène.
C'est très érogène le clitoris. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un petit peu de peau qui le recouvre. Et cette peau, elle s'appelle comment? Mais si vous ne le savez pas, vous avez donné un peu la bonne réponse quand même. On va considérer qu'elle est à peu près donnée la bonne réponse. Mais c'est parce que justement, le clitoris est très, très, très sensible, très énervé. Pas énervé. Hein. Et donc, il est recouvert par un petit peu quelque chose qui s'appelle...
C'est la zone qui est là, donc je n'imagine pas comment on peut appeler la peau différemment de l'autre partie du corps.
Bon, ça s'appelle le capuchon. Hein. C'est un petit repli de peau qui se met sur le clitoris pour justement le protéger des frottements dans la vie courante. Et c'est pour ça que quand on veut bien stimuler le clitoris, généralement on l'étire un petit peu, ce qui retire le capuchon et qui met le clitoris prêt à recevoir la caresse des doigts, de la langue ou du jouet ou je ne sais quoi. Vous avez appris quelque chose, Pauline.
C'est sensible, oui, c'est sûr.
Non, mais c'est marrant parce que ça me paraissait une question très facile et comme quoi il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et voilà.
On ne va pas pour les éducations dans les instituts nationaux pour apprendre exprès donc les parties de cours de femmes. C'est sûr que c'est très, très.
Non, mais vous avez raison. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur le clitoris. On avance, mais. C'est pas si simple que ça. Comment on appelle les couples qui sont sans sexualité ?
Sans sexualité du tout ?
Sans sexualité du tout, absolument.
C'est un peu morbide, ça c'est clair, mais...
Pas de jugement, Pauline. Hein. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Comment on appelle les couples qui sont sans sexualité du tout ?
Des amoureux.
Oui, mais c'est pas idiot ce que vous dites, parce qu'il y a des couples qui sont sans sexualité, mais qui sont ensemble et qui s'aiment, mais qui ne veulent pas faire l'amour. C'est un courant qui nous vient d'ailleurs des États-Unis, je crois, et qui est alors je dis pas qu'il est très développé, mais qui se développe un peu.
Donc du coup, en États-Unis, il y a plus
essayons de réfléchir. Quand on est sans, quelle est la fixe qu'on met devant le mot quand on est sans? Aidez-la, François, soyez généreux.
Les asexuels.
Et ben voilà, on y arrive, Pauline. Voilà, c'est une expression, les asexuels. Alors je crois qu'il y a ils sont 2%, 3% maintenant. C'est pas, c'est pas énorme, mais et puis ils risquent pas de se reproduire. Alors
surtout, c'est bien d'enrichir le dictionnaire.
Ben oui, mais il faut...
Je m'inscris dedans, donc déjà dans ce livre-là, c'était le dictionnaire de nul à apprentissage de sexe et de...
Ah, le sexe pour les nuls.
Oui.
Dans le sexe pour les nuls, vous trouvez sans doute beaucoup de réponses...
Mais c'est pas de nul de sexe, c'est sexe pour les nuls, c'est surtout ça.
Oui, le sexe pour les nuls, absolument, c'est écrit par une sexologue américaine, je crois d'ailleurs. Alors, quel est le peuple champion du monde? Ça c'est un peu la même question, puisqu'on est encore dans l'abstinence. Je vais vous prendre une autre question, un peu plus culturelle, je puis dire.
Civilisé ou pas civilisé comme peuple? Mais je veux juste me permettre d'intervenir.
Bon, allez, je vais vous prendre une question. À qui doit-on cet ouvrage, Le deuxième sexe?
À deuxième, ça c'est mon devoir.
Ah ben voilà. Voilà une vraie bonne réponse, Pauline, on y arrive. Bon allez, je vous l'accorde, votre caution sexuelle, allez, on va être gentil, on va vous le donner. Hein,
voilà. Bon écoutez, je me sens vraiment passé un examen assez dur.
Mais c'est marrant parce que, écoutez, moi j'ai vraiment fait ça pour qu'on s'amuse ensemble, on y arrive ou on n'y arrive pas, quelle importance, enfin je veux dire, attendez, si tout le monde avait, vous savez même moi, je suis sûre qu'il y a des questions qu'on me poserait auxquelles je ne saurais pas répondre, il ne faut pas se croire... tout savoir. Je suis sûr qu'en psychiatrie aussi, on pourrait arriver à vous coller, non, François Bourgognon?
Si, sûrement.
Oui, c'est nouveau.
Brigitte, est-ce que vous
comme,
savez...
métier, en fait, vous n'êtes pas psychologue, mais en même temps, ça permet d'apprendre plein de choses. Mais... Donc, vous êtes notre professeur de temps en temps, on peut dire.
Je suis une bonne maîtresse, on va dire ça. Oui, François, vous voulez réagir?
Oui, moi j'avais une question, c'est est-ce que vous savez ce qu'est le contraire de la libido? Je l'aime bien, ça, là. C'est le bidoli.
Oui, ça, c'est l'anagramme. Non, mais c'est l'anagramme. Là, vous.
Oui, c'est une blague.
Non, mais je sais bien sûr. Okay. Merci, Pauline.
Merci Pauline.
Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous pouvez réagir, bien sûr, sur Sud Radio 0826-300-300. À tout de suite.
14h, 16h. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec François Bourgognon, aujourd'hui, on vous aide à lâcher prise, à être zen, à être, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre,
Ouvert, accueillant.
Alors oui, justement, le stress, qui est quand même une des caractéristiques importantes chez l'humain, c'est quelque chose qui nous empêche de lâcher prise ou...
C'est plus une des conséquences du fait qu'on a du mal à lâcher prise, oui, effectivement. Stress... c'est très souvent quand on est dans une logique d'hyper-contrôle, on en rajoute quoi. On se rajoute du stress, on rajoute du malheur au malheur quoi. L'idée c'est ça aussi, hein, à travers le lâcher-prise, c'est de pouvoir s'affranchir d'une couche de souffrance qui est facultative.
Donc si on est très stressé, c'est certainement parce qu'on a du mal à lâcher prise.
Il y a des causes externes, hein, c'est-à-dire on a des choses à gérer, ou il y a des événements aversifs de la vie qui nous arrivent, on n'y peut rien, mais il y a la façon dont on y répond. Et effectivement, dans la façon dont on y répond, si on n'y prend pas garde et qu'on se fait emporter par nos réflexes de contrôle, de lutte ou d'évitement, très souvent on peut rajouter quand même une couche de souffrance à quelque chose qui est déjà suffisamment douloureux.
Philippe est avec nous. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Brigitte et à votre invité.
Bon, bonjour.
Je viens juste de suivre
Oui, vous venez de... Bien sûr, oui. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Vous êtes plutôt dans la capacité à lâcher prise ou dans le contrôle, vous, Philippe?
Complètement, j'arrive à lâcher prise, quoi. Et bon, après je suis quelqu'un, le sport ça aide beaucoup quand même. Il faut dire ce qui est, quoi.
Et en quoi ça aide beaucoup le sport?
Mais ça aide à évacuer. Bon, parce que je suis quelqu'un, bon, comme je suis. Des fois, dès que je fais pas de sport, je sais que je suis pas bien, quoi, on va dire. Mm-hmm. J'ai pas le moral. Mais comme je fais beaucoup de sport, tout ça, j'arrive à gérer le stress, plus j'arrive aussi à garder mon sang-froid parce que bon, je suis chauffeur-livreur. C'est pas facile des fois dans la vie de tous les jours.
Dans la circulation quotidienne, oui, bien sûr.
La circulation, tout ça. Et dès que je fais du sport, je me sens bien. Moi, c'est mon. Après, j'ai des techniques, j'ai des méthodes aussi que je pratique. Que j'arrive. Après, je suis positif aussi. Je suis quelqu'un de très optimiste et j'arrive à positiver. Donc, du coup, bon, je me dis, même si j'arrive en retard, ça sert à quoi de stresser? Je ne vais pas me rendre malade. J'arrive à. Comment je vous explique?
Oui, vous arrivez à relativiser et à ne pas vous laisser envahir choses, par. Oui.
Voilà, il n'y a pas plus pire que la santé, quoi. On va pas se. Je me dis, bon, qu'est-ce qui va arriver de pire? Ça sert à quoi de stresser dans ma tête? Et j'arrive à gérer le stress. Bon, après, le sport, ça m'aide beaucoup quand même parce que ça permet d'évacuer les tensions de toute la journée. Et après, j'arrive à lâcher prise complètement, quoi.
Oui, c'est très bien ce que vous dites parce qu'on est vraiment dans la mise en application, on va dire, du lâcher prise ou du concept de lâcher prise par rapport aux petits tracas du quotidien. Et c'est vrai que si on n'y prend pas garde, en fait, on peut perdre beaucoup d'énergie au quotidien face à des retards de train, les aléas de la météo, les dysfonctionnements d'un ordinateur, les embouteillages. Et bien évidemment, tout ça, ce sont des événements qui nous arrivent et sur lesquels on n'a pas de prise. Donc vous pouvez vous énerver tout rouge quand vous êtes dans un embouteillage, ça ne fera pas avancer la voiture plus rapidement.
Voilà, tout à fait.
Donc c'est vraiment, et là on est vraiment dans ce que moi... j'appelle une attitude sage, c'est-à-dire arriver à embrasser la réalité de la situation, aussi déplaisante soit-elle, d'une manière où on ne va pas rajouter de la crispation à quelque chose qui est déjà suffisamment pénible. Donc quand on est dans les bouchons, effectivement, arriver à considérer que on n'a peut-être rien de mieux à faire que de ne pas se tirer une balle dans le pied en s'énervant. Et c'est déjà pas mal.
Alors quand Philippe parle du sport, hein, qui l'aide à évacuer du surplus de stress, sans doute, j'imagine. Comment vous interprétez ça, François Bourgognon?
Tout dépend du processus interne au moment où il fait du sport, en fait. C'est-à-dire que le sport, ça peut être aussi bien au service du bien-être, de l'accomplissement, comme ça peut être aussi au service d'une certaine forme d'évitement émotionnel. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont se servir du sport pour écraser des ressentis, des émotions inconfortables. Et il y en a d'autres qui vont actualiser leurs émotions, les prendre en compte et faire du sport dans une perspective de bien-être. Donc une caméra filmerait la même chose, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du sport, mais le processus interne n'est pas le même. C'est-à-dire, quelle est l'intention de la personne qui fait du sport au moment où elle le fait? Est-ce que c'est pour se rapprocher d'une certaine forme d'accomplissement et de bien-être, ou est-ce que c'est pour éviter de ressentir?
Mmh. Voilà. Évidemment, les effets ne seront pas les mêmes, à long terme.
Tout à fait. Dans le premier cas, on est dans quelque chose de plutôt opérant et de positif en termes de régulation du stress. Dans le deuxième, on est uniquement dans une logique d'évitement, en fait. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est de considérer que aucun comportement ne peut être étiqueté de bon ou mauvais en soi. En fait, ce qui compte, c'est quand même le processus interne. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je fais du sport? Alors, si je le fais pour me rapprocher de mon bien-être, ce n'est pas la même chose que si je le fais pour écraser mes ressentis. Voilà.
Qu'est-ce que vous diriez, Philippe?
Mais tout à fait, je suis d'accord avec le médecin. Moi, je le fais vraiment, le sport. Je ne le fais pas pour... déjà pas pour plaire, déjà pour me sentir bien dans mes baskets et pour mon bien-être et pour éviter les maladies, pour éviter tout ça. Voilà,
vous prenez du plaisir à faire votre sport.
Voilà,
et vous sentez vraiment mieux, du plaisir. Oui.
Et pour vous rapprocher d'une bonne santé. Donc c'est très
voilà,
bien.
Voilà, la santé, moi c'est pas physiquement, je fais pas pour le physique ou voilà.
C'est pas pour avoir des muscles.
Non, parce que quelqu'un de très très sec, j'ai 38 ans. Et j'ai un physique d'athlète, quoi, très sec, et c'est pour mon bien-être, on va dire.
Donc, vous êtes une belle bête.
Pour mon bien-être. Après, je ne cherche pas à prendre du muscle ou pas, parce que bon, après, ça ne sert à rien d'être musclé, parce que franchement, c'est
non,
pas...
Non, ce qui sert à quelque chose, c'est en effet d'être bien avec soi-même. Merci Philippe de ce témoignage. On va se retrouver tout de suite après les infos. On continue évidemment à vous donner la parole sur Sud Radio. La devinette, le bonheur à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à combien ? François Bourguignon, si vous avez une réponse, vous nous la donnerez après les infos.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Toujours avec François Bourguignon qui est avec nous et qui nous aide à lâcher prise dans une société où, en effet, on est toujours hyper actif, toujours dans la nécessité de faire quelque chose. Est-ce que pendant les vacances, vous avez su un peu lâcher prise ? Si vous avez envie de témoigner, bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Et puis, si vous aimez François Bourguignon, je rappelle le titre de son livre « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé ». Aux éditions First, il y a beaucoup d'exercices et beaucoup de bon sens surtout. Et ça, c'est peut-être ce dont on manque un peu en ce moment. Alors, la devinette, le bonheur à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à combien ?
Ouais, j'ai réfléchi du coup, je pensais pas à la bonne réponse, mais je dirais 103, sans toi.
3, tout simplement.
3 ?
Tant qu'on est deux, ça va. C'est quand on devient trois que le bonheur s'arrête. Ouais, voilà, okay. C'est aussi simple que ça.
Ah oui, c'est compliqué.
Bah oui. Je sais, je suis un peu. On croit toujours que je suis un peu tordu, mais non, je suis très, très simple. Ouais. Caroline, bonjour.
Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité.
Bonjour.
François Bourguignon qui est avec nous. Alors Caroline, vous pratiquez de la luxoponcture, m'a-t-on dit, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est quoi ?
Oui. C'est de. Pour faire simple, c'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est de l'acupuncture, mais au lieu que ce soit des aiguilles qui activent les pores F, de la lumière infrarouge.
D'accord. Donc voilà. De la lumière infrarouge à la place des aiguilles ou des doigts.
Voilà. Oui, voilà, exactement. Mmh. Et donc, c'est de la réflexothérapie. Et ça détend l'ensemble de l'organisme, ça rééquilibre l'organisme. Et donc, on se sent plus détendu et ça rééquilibre aussi les énergies, enfin voilà, à travers les neurotransmetteurs et les hormones. Voilà.
Et donc, vous pratiquez depuis longtemps ?
Ben, disons que moi, j'ai commencé on m'en avait parlé pour la perte de poids, mais on m'avait dit, tu verras, c'est à côté, ça te détend, ça te permet de prendre du recul sur les événements. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Ça aide, par exemple, pour la perte de poids. Bah, oui, bien sûr, il n'y a pas de secret, il y a un équilibrage alimentaire, mais ça aide aussi les compulsions alimentaires diminuent, voire disparaissent.
Oui, ben, j'entends bien, parce que c'est facile à dire. On fera d'ailleurs une émission avec Stéphane Clerget la semaine prochaine sur les kilos émotionnels, parce que c'est bien gentil, la perte de poids, il faut moins manger, mais c'est pas aussi systématique que ça. Et puis, comme vous dites, facile à dire, faut-il après arriver à s'en tenir
Exactement.
Oui, je me permets de prendre la parole. On parlait tout à l'heure du sport, hein, qui peut être fait aussi dans une logique d'évitement émotionnel. L'alimentation, bien évidemment, peut aussi être employée pour essayer de s'absenter d'un ressenti, parce que le fait de manger, par exemple, permet de
remplir un vide.
De remplir un vide, ou d'écraser une émotion.
Donc, ou se sentir, en effet, par exemple, la personne, on est angoissé, on a l'impression qu'après un carré de chocolat, on se sent un peu plus détendu, quoi.
Alors que ça a l'effet. Alors ça a un effet immédiat, en effet.
Oui.
Au moment où on mange le carré de chocolat, on se sent bien. Mais après, on se sent encore moins bien, parce que non seulement on se ressent à nouveau stressé, angoissé, et en plus on s'en veut d'avoir cédé à la tentation.
Oui.
C'est la double peine.
Mais c'est justement toute la force de ces troubles-là, entre guillemets, c'est que à court terme, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au moment où je mange mon carré de chocolat, je me sens mieux. Et quand on n'est pas bien, le seul truc qu'on voit, c'est le truc qui va nous soulager tout de suite. Oui, indépendamment des conséquences à moyen et à long terme. Et alors, voilà, donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver aussi à regarder les choses avec un peu de perspective pour pouvoir ne pas se faire emporter par nos réflexes d'évitement à court terme.
Oui, oui. Et d'avoir un objectif, mais ça, c'est pareil, ça fonctionne mieux quand on se sent bien, quand on a eu le déclic aussi.
Oui, et puis avoir un objectif, on est dans quelque chose de l'ordre de la pensée, hein, quelque part. On n'est pas, encore une fois, vous appuyez beaucoup sur la question du ressenti, de l'intérieur de soi. Avoir un objectif, c'est assez extérieur à soi, finalement.
Disons qu'un levier de thérapie qui est quand même extrêmement puissant et qu'on travaille beaucoup à travers l'approche méditative, c'est la capacité à accueillir ses ressentis, aussi désagréables soient-ils, sans chercher à tout prix à s'en absenter. Voilà, donc si vous voulez, quand on ressent quelque chose de compliqué, on dit lâcher prise, c'est faire avec ce qui peut être évité. Donc c'est faire avec la réalité et les émotions que la réalité génère en nous, en fait. Ça se joue à deux niveaux, hein. C'est accepter quelque chose qui s'impose à moi, ça c'est le premier niveau, et que ce quelque chose suscite en moi des émotions qui soient difficiles, on dit négatives parce que désagréables, mais ces émotions, d'une certaine façon, elles sont inévitables. On peut s'en absenter à court terme, mais à moyen et à long terme, de toute façon, on se les prend. On dit personne ne court assez vite pour échapper à ce qu'il ressent. Et donc, finalement, l'idée, c'est aussi d'apprendre à se stabiliser avec ses ressentis sans partir tout de suite dans le carré de chocolat. Et quand on a appris, d'une certaine façon, à apprivoiser ses ressentis, c'est-à-dire juste à être capable de les ressentir au moment où ils s'allument en nous, ça, d'une certaine façon, on accède à beaucoup plus de liberté.
Oui, oui, oui.
Et donc, aujourd'hui, vous avez perdu les kilos que vous vouliez perdre ?
Alors, je les ai perdus. Et en plus, maintenant, parce que j'ai été convaincue, et maintenant, j'accompagne les personnes et je fais de la luxopuncture sur les autres. Parce que moi, j'ai découvert ça, c'était un moment où j'étais en reconversion professionnelle, enfin, où je savais que dans les mois ou l'année qui allait venir, j'allais me retrouver sans travail. Donc, j'ai décidé de faire ça, quoi, voilà.
D'accord.
De proposer aux autres personnes. Et justement, le lâcher prise. Et il y a des témoignages qui sont impressionnants. Par exemple, justement, dans les relations intimes, j'ai des personnes qui, elles disent que c'est beaucoup plus fort après des séances de luxo parce qu'il y a un lâcher prise, elles se laissent plus aller. Et
en tout cas, elles sont plus détendues.
Oui, ouais, plus détendues, ouais, voilà, ouais, plus ouais. Détendues.
Être détendu, c'est peut-être, j'allais dire, la première marche du lâcher prise. On pourrait dire ça ou pas ? Vous n'avez pas l'air d'accord.
Disons que je ne placerai pas le lâcher prise et la détente ou la relaxation sur le même niveau. En fait, je pense que les deux sont très bien, sont très intéressants. Mais pour moi, vraiment, en tout cas, c'est comme ça que je le conceptualise. Hein. Le lâcher prise, c'est vraiment une question de posture mentale. Hein. C'est-à-dire, c'est sortir du mode réactif, du « non, je ne le veux pas, je le refuse », à quelque chose du style « bon, ok, ça me déplaît, mais c'est là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ?»
Ah oui, par exemple, pleurer...
Oui, alors c'est par exemple, ok,
si on a une émotion qui nous envahit, pleurer plutôt que de le garder en soi.
Que de faire comme si c'était pas grave, quoi.
Voilà. Oui, voilà, voilà.
C'est-à-dire s'autoriser effectivement à ressentir ce qu'il y a à ressentir. Là, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la détente, finalement. On est simplement dans l'accueil d'une émotion, aussi inconfortable soit-elle, qui s'allume en moi. Donc effectivement, pour moi, le lâcher prise, on est dans quelque chose de différent de la détente ou de la relaxation. La détente et la relaxation ont bien évidemment un intérêt, c'est indéniable, mais on n'est pas tout à fait dans la même logique.
La détente, c'est juste le corps finalement qui est détendu, et c'est pas forcément pour ça que l'esprit est détendu, alors que le lâcher prise, c'est tout est détendu. J'essaye d'expliquer
en tout cas,
avec des mots simples.
En tout cas, l'esprit n'est pas crispé totalement, on va dire. On revient toujours à cette idée de faire de la place à ce qui nous déplaît pour que ça ne prenne pas toute la place. Voilà. Parce que tant que je suis crispé et en lutte... Alors bien évidemment, je parle de choses qui s'imposent à nous et sur lesquelles on n'a pas de prise immédiate, en tout cas. Hein. C'est-à-dire, on reprend l'exemple des embouteillages. Je suis dans les bouchons. Je n'ai pas de prise immédiate sur ce qui se passe. Donc, si je veux pouvoir, à un moment, faire un tout petit peu de place à autre chose au moment où je le vis, bah, l'idée, ça va être d'être dans l'accueil aussi du fait que bah, je suis dans une situation qui me déplaît, mais sur laquelle je ne peux pas
agir. Et donc, je me jette sur mon téléphone et...
Bah, ou je peux en profiter pour écouter une chanson que j'aime bien, ou pour profiter du paysage, ou pour discuter avec la personne qui est à côté de moi. Ou... Je peux faire plein de choses.
Ou pour m'évader
peux...
dans des pensées agréables.
Voilà, exactement. Plutôt que d'être... en train de crisper les mains sur le volant, de s'énerver
d'engueuler
tout rouge, d'engueuler le voisin.
Change de fil.
Exactement, exactement.
Eh oui. Merci Caroline, en tout cas, et bien continuez à faire du bien autour de vous. On se retrouve dans un instant avec la pieuvre, l'animal que nous propose aujourd'hui Philippe Hoffmann.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant. Sexy News.
Alors moi, il y a un animal que j'aime bien, François Bourguignon, parce qu'il a plein de bras. Alors il peut me prendre dans ses bras, dans tous ses nombreux bras. Je ne sais pas combien ça a de bras, d'ailleurs, la pieuvre. Bonjour Philippe Hoffmann.
Ça en a 8, puisque ça vient du latin octopus, 8 pieds. Mmh. Et elle a 8 bras tentacules. Alors pas confondre avec la sèche ou le calamar, qu'en ont 10. Mais
d'accord.
Donc qui est moins utile. Et la pieuvre ou le poulpe commun, hein, c'est un animal étonnant, encore une fois. Et alors, pour reprendre un petit peu le thème de votre émission, lui, il ne lâche pas prise, et pour procréer même, il grossit, vous allez voir.
Donc, et pourquoi vous dites que ça lâche pas prise, la pieuvre?
Ah bah parce que je peux vous dire que quand ça vous agrippe, avec ses 200 ventouses par tentacule,
quand il nous agrippe,
vous pouvez pas filer. D'ailleurs, il y a une très belle estampe du peintre japonais Okuzai, qui montre un poulpe en train d'enlacer une geisha de ses 8 tentacules, de lui en enfoncer une dans la bouche profondément et de lui faire un cuni avec son énorme bouche de perroquet.
Oui,
donc c'est formidable.
Non, hein. De toute façon, on n'a pas 8 trous, hein, donc arrêtez.
Mais enfin, bien enlacé, comme ça, vous êtes en sécurité. Alors, c'est un animal étonnant. Hein, intelligent, doué de mémoire.
Ça a
de
des
mémoire.
Yeux assez particuliers, je trouve. C'est assez inquiétant, je trouve, les yeux de la pieuvre. Non, vous ne trouvez pas, François?
Oui, c'est un peu exophtalmique. Vous savez, c'est un peu l'hyperthyroïdie. Hein. Des gros yeux globuleux qui vous regardent comme ça. En plus, au milieu, il y a juste une pupille en rectangle noir. C'est un peu particulier, effectivement. Et quand ils sont en période de frais, au moment des chaleurs,
en fait,
de l'amour...
Excusez-moi, je vous coupe, mais ça y est, hein, on a mis sur le site de Sud Radio le pénis du
canard.
Du canard
Vous l'avez vu, c'est étonnant, hein. Je ne vous avais pas menti.
Non, vous ne mentez jamais, Philippe Hoffmann.
Voilà. Alors là, c'est un animal qui, vous allez voir, est surprenant. Il a le sang bleu. Il est capable de se camoufler sur n'importe quelle forme. Et puis, vous le savez, quand il est en danger, il lâche de l'encre, hein, pour se sauver. Et ce petit nuage d'orage marin peut persister 10 minutes. Alors après, il faut le retrouver. Hein. Donc en fait, le seul problème en dehors des congres et des murènes, le seul problème est de la pêche humaine, des pieuvres ou des poulpes, selon le nom qu'on leur donne, c'est la procréation. Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors, en fait, une fois que les pieuvres ne sont pas prêtes à une certaine saison, il faut qu'elles aient un bon poids. 200 grammes pour les mâles, et bien plus lourd, 500 grammes pour les femelles, sachant qu'elles font à peu près 2 ou 3 kilos. Hein. Donc quand ils commencent à grossir, ils sont prêts. Alors mise dodue, poulpette, pleine de réserves de bouffe, elle se prépare avec ardeur. Alors elle nettoie avidement ses tentacules, elle les déploie en étoiles, et elle attire les mâles solitaires. Alors les mâles excités d'un tel spectacle rutilant, ils arrivent en agitant leurs 8 bras frénétiquement et
donc elle est en étoile de mer, hein, en quelque sorte.
Voilà,
elle
lèche bien ses ventouses.
D'accord.
Ouais, il faut que ce soit brillant.
Et d'accord, c'est pour ça qu'elle... Oui, ok, pour qu'on la voie de loin.
on la voit de loin.
Quoi, comme une vulve de jument.
C'est un petit peu comme un sex shop, voilà. Vous voyez ?
Non, mais comme une vulve de jument. Vous n'avez jamais vu une jument en chaleur, Philippe Hoffmann,
ah,
je vous assure.
Si, j'ai vu ça, si, bon, ça, ben, voilà. Ça clignote aussi. Hein.
Ouais. D'accord. Donc le mâle arrive.
Alors le mâle arrive, il agite lui aussi ses huit bras, mais lui frénétiquement un peu. Et puis il se regarde les amoureux en roulant leurs yeux globuleux. Et leurs yeux se cerclent alors de noir, tous les deux, et on voit qu'ils sont prêts là. Alors le mâle s'approche, il danse, il enlace sa prétendante joufflue, il la colle un maximum avec ses 200 ventouses par tentacule, et là elle est coincée. Il utilise particulièrement une tentacule qui est son bras numéro 3, qu'on appelle l'ectocotyle. Et c'est une tentacule gouttière qui se finit en forme de spatule et qui lui sert un peu de pénis.
D'accord.
Alors la femme, elle est ligotée comme dans un bon bandage et elle lui offre son ventre où est située une petite forme d'accès à ce qu'on appelle sa cavité paléale. C'est un orifice qui n'est pas un vagin, parce que les mâles en ont un, mais une sorte de cavité où on retrouve les branchies, les viscères, et puis les gamètes mâles et femelles.
Ce sera tout, quoi.
Ouais, un peu comme pour les oiseaux, vous voyez.
Une sorte de cloaque.
Avec le cloaque, voilà. Et le poulpe, il y enfonce profondément son ectocotyle, sa troisième tentacule, et il reste là pendant des heures et des heures. Délice du poulpe. Un long coït pour déverser en sac des monceaux de sperme. Avec ce stock considérable, la future maman pieuvre, elle pourra fabriquer 200 à 500 000 œufs en grappe.
Ah,
elle
quand
accrochera
même.
Dans une petite grotte planquée. Mais vous allez voir, une fois engrossée, elle ne mangera plus. Elle pondra ses 50 cordons d'œufs pendant 3 semaines. Ensuite,
pour ça qu'elle avait pris des réserves, donc.
Ouais, mais quand même, toujours à jeun, elle l'éveillera, nettoiera pendant des semaines. Jusqu'à 18 semaines si la mer est froide. Donc jusqu'à leur éclosion. Épuisée, elle mourra après son admirable mission de mer. Mais en fait, selon les scientifiques, c'est pas vraiment la faim qui la tuerait, mais une sécrétion endocrinienne qui programmerait génétiquement sa mort après le nursing. Dur destin hein, pour les femmes.
Hein, oui,
pour
c'est les, ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont mis au monde les petites pieuvres, ça y est, elles s'en vont.
Voilà, et que quand elles sont éclos, vous voyez, une fois qu'elles se sont bien
c'est
occupées
c'est la parabole de la vie et la mort.
Exactement. Alors de leur côté, les mâles, ils ont un léger répit de survie, mais après une si longue et enveloppante copulation, ils deviennent vite des vieillards séniles. Ils ont alors des problèmes de
mouvement.
Donc
ils se servent de leur huitième bras comme une canne, c'est ça?
Oui, non, justement, ça part dans tous les sens, leur tentacule. Il est tortillé, et ils n'arrivent plus à les retenir.
Ils ont la maladie de Parkinson?
Oui, en gros, c'est ça. Et alors, pour arrêter le jeu, ils commencent à dévorer leurs propres tentacules. C'est une autophagie un peu spectaculaire. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, ils meurent parce que...
Voilà. C'est étonnant parce qu'on se demande comment un tel animal peut être encore en vie, enfin, peut exister encore avec
cette
façon...
Parce que 200 à 500 000 œufs, même s'il y a beaucoup de prédateurs, il en reste. Hein.
Oui. Bien sûr.
Et donc, vous voyez, après avoir assuré leur descendance... Hein,
donc ils font des fist-fucking, en fait.
Finissent mal.
Les pieuvres, hein, ça se termine en fist-fucking.
Un peu ça.
Comme quoi, tout est dans la nature. Hein. L'humain n'a rien inventé en matière de sexualité.
Ah non, il suffit de regarder la nature, de s'en inspirer un petit peu. Bon, c'est un peu difficile de faire, vous savez, comme une apsara, une danseuse indienne avec plein de bras, parce qu'on n'en a que deux. Mais ça peut être marrant d'essayer.
Vous avez deux pieds, vous en avez un troisième membre, ça vous fait
voilà,
déjà
c'est
cinq.
Ça, déjà,
vous
ça
vous en
mal.
Avez déjà cinq, alors faites quelque chose avec les cinq, mince.
Voilà, hein bah, on va demander aux auditeurs qui s'entraînent dès à présent.
Ajoutez les oreilles, ça fera 7, et la langue, ça fait 8. Et ben voilà.
Voilà.
Soyez des pieuvres ce week-end. Merci
voilà.
Philippe Hoffmann, en tout cas. Vous voulez réagir sur la pieuvre?
Non.
Ça ne vous inspire pas. Marquez, moi non plus, finalement. Merci Philippe Hoffmann, en tout cas. Et puis, on se retrouve dans un instant, bien sûr, avec le Love Conseil du jour. Et puis, on parlera du bonheur aussi, dans un instant.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Le Love Conseil.
Alors, François Bourgognon, tout le monde n'a pas une pieuvre sous la main pour améliorer sa sexualité. Donc, j'ai trouvé quelques objets un peu ludiques, parce qu'il n'y a rien de tel que de temps en temps d'utiliser un objet de la vie courante et de les introduire dans sa sexualité. Parce que parfois, le jouet intime est un petit peu trop connoté sexe. Voilà. Alors, ce sera d'autant plus érotique si vous en faites une sorte de jeu et si vous savez surprendre votre partenaire. D'une certaine manière, hein, celui qui surprendra le plus sera récompensé. Alors, je ne sais pas, par exemple, on pourrait s'amuser avec la tapette à mouche. Ça pourrait servir pour donner une petite fessée érotique. Hein, c'est pas mal, une tapette à mouche.
Oui, il ne faut pas partir en fou rire, quoi.
Ah bah non, quoique parfois... Alors, le rire, c'est pas bon.
Non, mais non,
au moment
mais oui.
du coït, mais avant, c'est un excitant sexuel, ça met bien la libido en route, le rire. Donc pourquoi pas. Alors il y a la cravate hein, qui peut servir de lien, se caresser avec un plumeau. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très très bien. Alors il y a évidemment la brosse à dents électrique comme jouet intime. Hein, c'est quand même une vibration tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, je suis sûre que les dentistes, il y a longtemps qu'ils l'utilisent. Bien avant que les jouets intimes soient devenus très démocratiques. Alors, il y a bien sûr tous les aliments, hein, les légumes comme godemiché, et pourquoi pas une mangue comme masturbateur pour hommes. C'est quelque chose qui peut tout à fait remplacer ou le gant de toilette rempli de nouilles chaudes. Moi, j'ai entendu ça un jour. C'est un homme qui me racontait que quand il était ado, il se masturbait avec un gant de toilette rempli de nouilles chaudes. Et j'imagine bien que ça doit tout à fait ressembler à un vagin, hein, après tout. Bon, bref, laissez fonctionner votre imagination. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est talc, bonbon à la menthe, on en a déjà parlé, hein, le bonbon à la menthe, parce que la menthe, c'est un excitant pour les muqueuses. Bref, il y a énormément d'objets qui peuvent être détournés, donc n'hésitez pas à en abuser. Hein, et c'est surtout que ça devient, comment dirais-je, ça surprend parce que c'est pas téléphoné, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors, François Bourgognon, il fallait bien que je fasse la faute une fois durant ces deux heures. On va accueillir Jean Dorido, qui est un collègue. Hein, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour à tous.
On vous retrouve sur des radios, dans l'émission de Philippe David, hein, le samedi matin, dans le grand matin week-end, pour la rubrique Ça va mieux en le disant. Et donc, on va le dire avec vous. Voilà. Votre livre, il est sympa, il est très grand public, mais alors, le titre, franchement, Le bonheur est une science exacte, ça m'étonnerait, hein, ça se saurait.
Ben alors, précisément, c'est un petit peu comme ça que l'aventure du livre a commencé, parce que c'est ce qui m'a interpellé. J'ai appris il y a quelques années que le bonheur est enseigné désormais à Harvard. Et c'est assez étonnant pour être souligné. Et
grâce aux neurosciences, j'imagine.
Alors, grâce aux neurosciences, c'est vrai, et aussi grâce à un courant de la psychologie qui est apparu il y a une vingtaine d'années à peu près, qui s'appelle la psychologie positive. Ce sont deux pointures, je dirais, de la psychologie aux USA qui ont lancé ce mouvement dans la mesure où longtemps la psychologie et les psychologues se sont intéressés au dysfonctionnement de l'être humain. Et donc ils sont devenus experts.
Il y a du boulot. Hein.
Il y a du travail.
On
ça,
a un
c'est
psychiatre
le moins...
avec nous, vous êtes d'accord, hein, François, il y a du boulot.
Ah oui, oui, il y a beaucoup de travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors ils sont devenus précisément experts dans tous les dysfonctionnements, dans tous nos tourments. Et longtemps, les psychologues ont entretenu l'idée qu'une personne qui ne va pas mal, une personne qui n'est pas dépressive, qui n'est pas schizophrène, qui n'est pas phobique, c'est que donc elle va bien. Et puis, en fin de compte, ils ont réalisé que ce n'est pas la même chose. Et donc, depuis une vingtaine d'années, les psychologues étudient le fonctionnement des personnes qui vont bien, celles qui sont plus heureuses que les autres précisément, celles qui ont un peu moins de stress, celles qui prennent la vie du bon côté. Et ils se sont rendus compte qu'il y a vraiment des schémas de fonctionnement, des structures qui leur sont manifestement communs. Et c'est comme ça qu'est née cette psychologie positive. Et comme vous le dites très justement, Brigitte, avec l'aide des neurosciences pardon, qui permet maintenant de voir dans le cerveau...
C'est-à-dire que l'avantage des neurosciences, vous me dites, hein, François Bourgognon, si je me trompe, c'est que ça permet en effet de voir ce qui se passe dans le cerveau. Et donc, par exemple, sur la méditation, puisque vous parlez beaucoup de méditation, on a bien vu que quand quelqu'un médite, il se passe quelque chose dans le cerveau grâce aux neurosciences.
Ah bah, ça réduit carrément la taille de l'amygdale. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'on voit la plasticité cérébrale. C'est une grande grandes trouvailles des dernières années.
Sale bête, cette migale.
Oui, oui. L'amygdale, c'est une région du cerveau qui est très impliquée dans les émotions, notamment négatives, notamment la peur. Et c'est vrai que les scientifiques se sont rendus compte que le cerveau se transforme à force de répéter certains exercices, notamment méditatifs. Bref, le bonheur est enseigné à Harvard. Et c'est vrai qu'on peut dire...
Oui, mais c'est pas parce que c'est enseigné que c'est... Par exemple, la médecine, elle est enseignée en faculté, c'est pas pour ça que c'est une science exacte.
C'est pas toujours une science exacte, certes. Toutefois, bon, on a quand même des résultats assez solides quand même aujourd'hui, heureusement, qui permettent à nos médecins de nous soigner, de nous garder en meilleure santé plus longtemps.
D'accord. Donc, vous donnez beaucoup de clés. Bon, ça va, moi j'ai vu, j'avais à peu près... ça va, je sais lâcher prise, je sais sortir de ma zone de confort, mais pas trop. Je souris beaucoup.
Mais ça, c'est très fort, le sourire.
Hein, c'est vrai. Hein, vous
c'est vrai qu'il y a une espèce de phénomène de rétroaction. C'est vrai que généralement, quand vous êtes heureux, vous souriez. Et en fin de compte, on se rend compte que quand vous souriez, vous êtes heureux. Donc vraiment, ça peut... aider de se forcer un peu à sourire.
On apprend la mort de sa mère et on sourit et ça va mieux.
Alors peut-être que dans les zones extrêmes, dès qu'on va sur les bords, vous voyez, peut-être ça marche quand même un peu moins bien.
Non, je vous mets en boîte, Jean-Jean Rideau, en tant que collègue, évidemment. Alors donc le bonheur, ça s'apprend, hein, c'est un peu ce que vous êtes, ce que vous avez eu envie de développer dans ce livre, et que au fond, il faut d'abord peut-être déjà prendre soin de son véhicule.
Ah, complètement. Oui, ça, c'est vrai que vous avez mis le doigt dessus. Le bonheur, ça s'apprend. Il y a cette espèce...
C'est vous qui le dites, hein. Moi, je ne
oui,
sais que...
Oui, merci de le reprendre. C'est vrai qu'il y a cette espèce d'idée, même on pourrait presque dire de fantasme, de se dire, voilà, le bonheur, ça va arriver. Il y a des circonstances extérieures qui vont finir par me rendre heureux. Et en fin de compte, on réalise que le bonheur, c'est quelque chose, comme vous dites, qui s'apprend, qui se pratique, qui se construit. On pourrait presque dire que c'est une discipline. Et sur le véhicule, c'est vrai que l'importance du sommeil, l'importance de l'alimentation, l'importance du sport sont vraiment au cœur du bonheur. Des scientifiques, typiquement, se sont rendus compte, ils ont rassemblé 11 études qui ont été faites sur ce qu'on appelle la junk food, vous savez, ces personnes qui mangent trop gras, trop sucré, trop lourd. Eh bien, ils se sont rendus compte que les personnes qui consomment souvent de la junk food ont 40% de risque de dépression supplémentaire. C'est vrai que c'est très, très important de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à comment on dort.
Et pourquoi alors ?
Alors ça, pour le moment, l'histoire ne le dit pas. Justement, il continue de chercher.
Et vous nous dites que c'est une science exacte et que vous n'avez pas les réponses.
Pour l'instant, les scientifiques observent les facteurs de risque. Maintenant, c'est vrai que c'est une bonne question.
Vous avez une idée, François Bourguignon ? Bourguignon, oh.
Bourguignon. Des raisons pour lesquelles la junk food est toxique.
Ils sont plus dépressifs que d'autres ?
J'ai pas d'idée là tout de suite. Non, je peux pas vous dire.
Manifestement, il y a des pistes. C'est toujours pareil. Là, ils cherchent.
Hormonal, peut-être.
Et puis avec le sucre, plus ça va, plus les scientifiques se rendent compte que vraiment, c'est très très mauvais pour la santé physique et pour la santé psychique. Ça active, si vous voulez. Encore une fois, c'est à mettre avec des pincettes. C'est le sucre, le gras, ça active le système de récompense, la dopamine. Mm-hmm. Et en fait, c'est un système qui s'use assez rapidement et qui peut finalement
faire rentrer dans l'addiction.
Dans la dépendance, voilà, dans l'addiction.
Et l'addiction, ça rend dépressif. Ah, évidemment.
Compris le truc.
Donc là, en effet, il y a une logique. Alors,
vrai.
Est-ce que cette phrase, j'ai trouvé une phrase comme ça que tout le monde connaît, bien sûr. Hein. Le bonheur se reconnaît au bruit qu'il fait en partant. C'est Jacques Pauvert qui avait dit ça, mais c'est vrai que le bonheur, au fond, c'est pas un état permanent, c'est des moments comme ça. Et
exactement, c'est
et
quelque
peut-être
chose.
Peut-être qu'on n'est pas assez dans son ressenti justement au moment où on est dans un moment de bonheur, quoi.
Alors ça, c'est vrai que nous avons tendance, c'est l'évolution hein, darwinienne qui nous a sélectionné pour mieux retenir les événements négatifs de notre vie. Ça s'explique pour sélectionner les personnes qui sont prudentes et qui retiennent les dangers. Le fait est que précisément, lorsqu'on est bien, on n'imprime pas finalement. Et c'est pour ça que c'est important de noter, par exemple, ce qui se passe bien chaque jour. Les psychologues, justement, qui font de la psychologie positive, se sont rendus compte que c'est très très efficace. Et oui, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Le bonheur, ça va, ça vient. Et en même temps, c'est là qu'on se rend compte que ça ça peut se construire. Les personnes qui sont attentives aux pratiques, je dirais, efficaces en termes de bonheur, finissent par avoir un thermostat du bonheur qui augmente, si vous voulez. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des hauts, des bas. Maintenant, l'idée, c'est, typiquement, les scientifiques se sont rendus compte que ce qui vous arrive il y a 3 mois n'a pas d'impact sur votre bonheur. On n'imprime pas. Voilà. Il y a les hauts, les bas. Toutefois, il y a quand même un niveau, un thermostat. Donc, comme la température, c'est 37 chez tout le monde, le bonheur, c'est différent. Tout le monde n'a pas le même thermostat. Et on se rend compte, quand on étudie le sujet, qu'il est possible d'augmenter ce thermostat. C'est-à-dire que malgré les hauts, les bas, il va y avoir une espèce de point d'équilibre, hein, une homéostasie qui va vous ramener justement à ce niveau de thermostat que vous pouvez augmenter en adoptant les bonnes pratiques.
Oui, oui, c'est très juste. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un biais de sélection aussi dans les informations qu'on croise, où on a une tendance naturelle en fait à focaliser, à retenir le négatif. C'est d'ailleurs probablement pour ça que notre intelligence a été sélectionnée par l'évolution, c'est que on est très prompt à identifier quels sont les problèmes et à réfléchir comment les résoudre. Mais le problème, c'est que cette tendance naturelle là, elle a tendance à nous piéger. Et finalement, à retentir un peu sur notre capacité à voir aussi ce qui est positif ou voilà ce qui fait aussi que le pendant beaucoup plus heureux de nos existences. Et effectivement, en fait, contrebalancer. En fait, on travaille beaucoup à contrebalancer des biais naturels sur lesquels aussi le fonctionnement sociétal actuel appuie beaucoup.
Parce que tout simplement, on fait plus d'audience avec une mauvaise nouvelle qu'avec une bonne nouvelle.
Oui, tout à fait. Et on est dans ce bain-là, et donc ça appuie en fait sur une tendance naturelle. Et donc, si on veut contrebalancer ça et pas être piégé par ça, eh bien, ça s'apprend et ça s'entraîne et ça se travaille. Et effectivement, ce mouvement de la psychologie positive nous apprend ça.
Alors Jean Dorido, vous venez de sortir ce livre, Le bonheur est une science exacte. Vous donnez donc beaucoup de conseils très 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 pratiques, hein, et vous soulignez aussi l'importance du lâcher prise, hein, ce qui est un peu notre thème aujourd'hui. Mais on voit bien depuis 14 heures, puisqu'on essaye d'expliquer, c'est quelque chose d'assez abstrait pour beaucoup de gens, le lâcher prise.
Oui, c'est vrai. Et il y a ce terme, une espèce même d'injonction, hein, allez-y,
lâchez prise, arrête.
C'est vrai que c'est pas si simple, toutefois ça s'apprend. Pour être tout à fait pratico-pratique, on pourrait dire que le lâcher prise, c'est accepter ce sur quoi nous n'avons pas d'impact, si vous voulez. C'est
bon,
pas toujours
ça va,
si
vous
simple.
Donner la même réponse.
Oui. Ah, bah,
ouf.
Oui. Bon, au moins on a la
définition.
Cohérence. Voilà, c'est bien. C'est vrai que c'est une acceptation qui n'est pas toujours si simple. On peut parfois se retrouver en prise à des sentiments d'injustice. On a tout bien fait comme il fallait. Pour bien arriver à l'heure pour prendre son train, on tombe dans un embouteillage inouï. Alors que ça n'arrive jamais à cette heure-là. Et là, on peut être vraiment pris d'un sentiment d'injustice, parce que dans la colère, dans le chagrin, et l'idée de lâcher prise, c'est de réussir autant que faire se peut à accepter cet état de fait, mobiliser pourquoi pas de l'autocompassion, hein, se dire écoute, vraiment t'as fait ce qu'il fallait, t'as fait tomber, tu n'as pas à t'en vouloir.
Et puis il y a un embouteillage parce qu'il y a une voiture qui a eu un accident, il y a 2 morts, alors finalement est-ce qu'ils vont pas mieux être dans l'embouteillage, hein, finalement.
C'est une bonne façon de voir les choses, c'est ce qu'on appelle un changement de cadre, voilà, on change l'index de référence et ça peut aider, c'est vrai.
Sur le lâcher prise, moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup, que je raconte de temps en temps. C'est rapporté par John Kabat-Zinn, où il explique comment on attrape les singes en Inde. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire.
Avec la main qui rentre dans le...
Exactement. Hein. C'est-à-dire, en fait, il explique qu'on prend une noix de coco, qu'on vide, on la fixe à un arbre, et on fait un trou qui est juste assez grand pour pouvoir passer une main à l'intérieur. Et ils mettent une banane à l'intérieur de la noix de coco. Et quand les singes arrivent, ils passent la main à l'intérieur de la noix de coco. Ils attrapent la banane.
Dans votre livre, je crois, cette anecdote.
Ouais. Ils attrapent la banane. Et en fait, le trou est fait pour que la main puisse rentrer, mais pas ressortir si elle est prise autour de la banane. Et alors, vous savez ce qui se passe ?
Les singes ne lâchent pas la banane.
Exactement. Ils ne lâchent pas prise. Et je trouve que ça illustre très, très bien ce concept, en fait. C'est-à-dire, à un moment, arrêter de lutter quand la lutte devient contre-productive. Voilà.
C'est une belle image.
Ah oui, je confirme complètement. J'aime bien, anecdote et demie, j'aime bien l'histoire du paysan chinois. C'est un paysan et qui, un jour, trouve un cheval sauvage dans son champ. Alors tous les villageois, qu'est-ce que t'as de la chance, toi, t'as trouvé un cheval, vraiment t'es chanceux. Il dit, peut-être. Et puis le lendemain, son fils aîné monte sur le cheval pour le dévorer. Non, il se casse la jambe, ouais, en pleine période de moisson. Tout le monde qui dit, toi on peut dire, t'as pas de veine, hein, ton fils qui se casse la jambe, pleine récolte, hein. Il dit, peut-être. Et Et le lendemain, les guerriers de l'empereur passent dans le village, il y a la guerre, ils réquisitionnent tous les hommes en âge de se battre, sauf le fils du paysan chinois qui a la jambe cassée. Tout le monde lui dit « comme tu as de la chance », et lui dit « peut-être ».
Voilà, c'est une belle anecdote aussi, et c'est pour ça qu'au fond, ce serait bien de profiter de le ici et maintenant, de donner du sens à sa vie. C'est un peu tous les conseils que vous donnez dans votre livre, Jean Dorido. Le bonheur est une science exacte, et c'est aux éditions Larousse. On vous retrouve samedi
avec
matin,
joie. J'y serai.
Dans l'émission de Philippe David, entre 7h et 9h. Merci beaucoup.
Merci Magitte.
Nous, on va se retrouver dans un instant, François Borgognon, avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Toujours en compagnie de François Borgognon, le lâcher prise, c'est Frédéric maintenant qui réagit. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Alors, le lâcher prise et la sexualité, évidemment, on en a un petit peu parlé, hein, ça paraît évident, mais c'est pas si simple pour tout le monde. En revanche, vous êtes assez libre, hein, puisque vous pratiquez le libertinage, je crois. Hein.
Oui, on pratique le libertinage, bon, à moindre dose, et puis comme ça se présente, la façon systématique. Mais pour le lâcher prise, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. C'est pas inné à tout le monde.
Non, ça c'est sûr.
C'est pas donné à tout le monde. C'est dommage. Moi, je dirais, j'ai pas dû lâcher prise non plus tout le temps, comme vous disiez tout à l'heure. Ça dépend du contexte, ça dépend de du temps quand il se présente, du stress qu'on peut avoir dans un embouteillage ou autre chose. Et ça ne se commande pas systématiquement. Le tout, c'est d'être, surtout, je pense, bien au fond de soi. Quoi. Et être sûr de soi, et sans être trop sûr de soi. Et c'est comme ça que les choses peuvent...
Oui, mais c'est évident que si on a confiance en soi, qu'on est bien avec soi-même... C'est plus facile de lâcher prise dans la sexualité. Si on a des complexes, si on a peur du jugement de l'autre, si on croit qu'on ne va pas savoir faire, on se met forcément des choses qui vont nous empêcher de ressentir. Hein. On est dans des pensées qui sont là, mais qui sont souvent négatives, évidemment, par rapport à la sexualité.
Oui, et puis, bon, c'est vrai que... C'est quelque chose qui n'est pas forcément très, très simple à saisir ou à mettre en application dans sa vie de tous les jours. Je suis particulièrement bien placé pour en parler parce qu'on ne peut pas dire que je sois un monstre d'acceptation. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'entraîne, hein, véritablement. C'est-à-dire que c'est une posture mentale, en fait, qui... se développe et s'apprend et s'entraîne. Alors, je trouve que justement, les petits tracas du quotidien sont d'excellents terrains d'entraînement, hein, comme je disais tout à l'heure, les aléas de la météo, les retards de train, etc. Et une question qui peut être extrêmement utile aussi pour changer de posture mentale quand on doit faire face à l'adversité, c'est de revenir à la question de l'utilité, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire d'utile par rapport à ce que je suis en train de vivre. Parce que quand on se recentre sur la question de l'utilité, à ce moment-là, on retrouve une certaine forme d'esprit clair qui nous permet de faire la part des choses entre ce sur quoi je peux agir et ce avec quoi il faut que je fasse. Donc voilà, ça c'est des petites clés, en tout cas qui moi m'ont aidé à titre personnel.
Tout à fait. Enfin, l'utilité, quand il y a une période de stress ou quoi que ce soit, que je vois surtout avec ma compagne qui, elle, parlait pas du tout dans la lâcher prise, elle est dans le contrôle total, hein, je dirais, dans la vie de tous les jours, comme dans l'intimité ou même quand on est en club, il faut qu'elle soit toujours dans le contrôle. Quoi. Puis une fois, j'ai mis lâcher prise, elle m'a dit, mais je sais pas, lâcher prise, c'est mes mots de dire, mais c'est quoi lâcher prise, je sais pas ce que c'est, de suite à la scène. Et vous parlez d'utilité. Et moi, souvent, je prends un exemple, quand je parle à mes amis, de l'importance des choses. Où est l'importance quand on est dans le stress, ou moi, je travaille dans l'hôtellerie, du stress, il y en a beaucoup. Et des fois, quand le flou vient et s'accumule, je dis, où est l'importance des choses? où est la priorité. Et après, on va traiter les choses une après l'autre. Et ça ira beaucoup mieux. Et ça permet, de, je trouve, de relativiser et de passer plus calmement. Et voilà. Et dans le lâcher prise, c'est voilà, où est l'importance des choses. Et même si on se loupe, c'est pas grave.
Oui, mais c'est cette soif de perfection qui parfois peut nous encombrer aussi. Hein.
Ah, mais moi, je vois à travers ma compagne, il faut que tout soit carré, il faut que tout soit... Et même quand on est en soirée, mais ça, c'est arrivé où certains ne faisaient pas comme elles voulaient. Et puis, et on a eu des couples qui nous ont dit, ben, je ne sais pas, moi, c'est la première fois que j'ai eu une panne. Et elle ne s'en rend pas compte, c'est d'être tout le temps dans le contrôle et vouloir faire comme elle veut, sans écouter l'autre et sans être dans la lâcher prise. Donc, et bien, on se bloque tout.
Mais ils ont
du mal à comprendre. Hein.
Là où vous avez raison, Frédéric, dans la sexualité, quand il y en a un qui a besoin d'être le metteur en scène, si je puis dire, à un point tel, on est réellement, à ce moment-là, dans une incapacité à lâcher prise et en gardant le contrôle absolu. En effet, on passe à côté de la relation à l'autre, puisque finalement l'autre n'est plus un sujet, il est devenu l'objet de notre mise en scène.
Hein. Et tout à fait. Et chez elle, après, ben, ça rentre une frustration. Et ben, il y a des fois, ben, quand on sort quoi que ce soit, ben, elle me dit ben, non, mais là, ce soir, ben, laisse-moi faire comme je veux. Enfin, je te laisse tout le temps faire.
Ce qu'il faut faire, c'est lui mettre une paire de menottes.
Mais, alors,
non, je plaisante parce que alors, ça peut terriblement l'angoisser.
C'est la chose sur laquelle j'ai eu pensé. Je dirais, après,
il faut que ça soit vraiment un jeu. Il faut faire attention parce que, par exemple, dans le bondage, hein, qui consiste à ligoter une partenaire, on m'a raconté une anecdote réelle. Hein, une femme qui avait été donc dans le bondage, qu'on avait ligoté, et qui a eu une crise complètement d'angoisse dramatique. Hein. Après, elle a été obligée d'aller voir François Bourguignon et il est toujours en train de la traiter. Hein. Il faut faire attention parce que des personnes qui sont comme ça, justement, totalement dans le contrôle, ça dit quelque chose hein, de leur état psychique.
Oui, ce qui est important aussi de comprendre avec cette notion de lâcher prise, c'est que c'est une véritable stratégie et que c'est une stratégie active. C'est pas quelque chose qu'on... une fois de plus, les gens considèrent que la lutte est toujours la bonne réponse. Alors que, bien évidemment, il faut savoir lutter contre ce sur quoi on peut agir. Mais il faut aussi connaître d'autres stratégies quand on est confronté à des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Donc, si vous voulez, c'est souvent au cours des entretiens avec des personnes qui ont des difficultés liées au contrôle, quand on commence à amener la notion d'acceptation, de lâcher prise, ça réagit souvent de façon un peu vive. Hein. On nous dit, alors quoi ? Alors, je dois accepter, alors je dois baisser les bras. Alors que c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de considérer que de lutter est contre-productif. Voilà. C'est-à-dire continuer à chercher à contrôler, ce n'est pas du tout une stratégie opérante. Et c'est ça le point de départ, en fait. C'est-à-dire faire autre chose que de lutter quand la lutte est contre-productive. Je me répète un peu, mais c'est quand même la clé et c'est ce qui permet à un moment de considérer qu'effectivement, il y a peut-être mieux à faire que de continuer à chercher à tout contrôler.
Oui, allez-y, oui. Je vous en prie, Frédéric. Je donnerai un exemple après que tout le monde comprendra, mais allez-y.
Oui, il faut arrêter de contrôler et puis il faut pas se dire que passe un jour on était bien dans un bon état d'esprit, une bonne soirée, ça s'est bien passé et qu'on a réussi à lâcher prise, que la fois d'après ça va être pareil. Non, je dis c'est déjà je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut se donner, il faut se dire bon maintenant je vais prendre la vie autrement, zen, plus posé, plus calé, plus je dis c'est pas pour ça que on ne va pas avancer plus dans la vie.
Vous avez la chance, Frédéric, d'être dans cet état d'esprit et donc dans le lâcher prise, dans l'ici et maintenant, etc. Mais votre compagne qui est énormément dans le contrôle,
complètement.
Plus vous allez lui dire de lâcher prise d'une manière comme ça, une sorte de phrase, de commandement, plus vous allez plus renforcer, plus vous allez renforcer son contrôle. Et je crois que ça, on l'a tous rencontré dans notre quotidien, quand on est dans une dispute avec son partenaire et que quelque part, on veut absolument lui imposer quelque chose parce que ça nous paraît évident, plus il va se défendre. Et c'est là où on voit bien qu'on a tous tendance à avoir ce réflexe de lutte quand on ne veut pas entendre quelque chose ou qu'on ne veut pas voir quelque chose. Donc, et si l'autre continue, on va lutter encore plus fort. Donc c'est là où il faut bien comprendre que c'est un processus humain. C'est pour ça que c'est si compliqué, le lâcher prise. Ça demande quand même de travailler sur soi. Ça ne se fait pas comme ça. Hein.
C'est pour ça que peut-être qu'un bon point de départ, ça serait de la questionner sur l'utilité de continuer à chercher à contrôler. Est-ce que vraiment c'est une bonne stratégie ? Et peut-être de cheminer à partir de ce point de départ-là. Est-ce que la lutte vraiment semble être la bonne voie ?
Oui, mais je crois que déjà, il faut qu'elle arrive à comprendre que son contrôle, c'est une lutte.
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr.
C'est ça le...
Quand je parle de lutte ou de contrôle, en fait, j'utilise de façon...
Pour l'instant, c'est son fonctionnement. Si elle l'a mis en place, il y a certainement derrière des bonnes raisons pour se protéger de je ne sais pas. On connaît pas son passé, on connaît pas sa vie, mais ça s'est pas mis comme ça par hasard. Et c'est là où ça, c'est pour ça que, encore une fois, il suffit pas de lire une phrase pour arriver
tout à
lâcher.
Fait. Hein. Tout à fait.
En tout cas, j'espère que... Merci Frédéric de votre témoignage. Et j'espère que ces deux heures vous auront aidé un petit peu à mieux comprendre qu'on a intérêt, en tout cas, à lâcher prise. Merci beaucoup François Borgognon. Je rappelle le titre de votre livre, « Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé ». C'est aux éditions First, dans laquelle vous racontez cette jolie anecdote sur le singe, justement, qui est très parlante. Hein. Je crois qu'on la visualise très très bien. Tout de suite, vous retrouvez « C'est votre avenir ». Et puis lundi, on sera en compagnie de Samuel Comblaise. Alors, il travaille beaucoup justement sur l'adolescence et on va se poser la question de la pornographie. Est-ce qu'elle a une bonne ou une mauvaise influence sur la sexualité des Français ? Vous pourrez bien sûr réagir. Vous pouvez dès à présent d'ailleurs réagir si vous avez envie de passer à l'antenne.